Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir chers amis auditeurs, en ce mercredi 24 mars 2021, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Le ministre iranien de la Défense exhorte le Royaume-Uni à prendre des mesures concrètes pour payer la dette de l'Iran. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. De ce journal, Madame, Monsieur le Président iranien Hassan Rouhani a promis un retour complet à l'accord nucléaire de 2015 une fois les sanctions levées. À l'occasion du 7e anniversaire de l'invasion militaire de l'Arabie Saoudite et de la coalition contre le Yémen, l'Iran soutient tout plan de paix au Yémen. Et puis la fusillade dans le Colorado, Joe Biden réclame l'interdiction des fusils d'assaut. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président iranien Hassan Rouhani a promis un retour complet à l'accord nucléaire de 2015, une fois les sanctions levées. Hassan Rouhani a déclaré que malgré les 3 années de sanctions illégales imposées à Téhéran, l'Iran est prêt à revenir pleinement à l'accord multilatéral nucléaire sans réclamer pour le moment aucune perte ni dommage. Il a noté que les remarques faites par le très haut dirigeant iranien, l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei, étaient très claires et ne laissaient à l'autre partie aucune excuse sur la question. L'Iran a commencé à réduire ses engagements liés à l'accord nucléaire au titre même du pacte multilatéral un an après le retrait unilatéral des États-Unis du plan global d'action commun historique sur le nucléaire iranien de 2015, dit PGAC, et la réimposition de sanctions par Donald Trump en 2018 contre Téhéran. La diplomatie iranienne rejette par la voix de son porte-parole une résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies contre Téhéran, affirmant qu'elle est alimentée par des motifs partiaux, intéressés, biaisés. Saïd Khatibzadeh a fait ses remarques le mercredi en réaction à l'approbation d'une résolution anti-iranienne d'un groupe de pays contre la République islamique d'Iran lors de la 46e réunion du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cette résolution a été approuvée par une faible majorité. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que la résolution soutenue par l'Europe suit des objectifs politiques et faisait par conséquent l'objet d'une mésentente. Le diplomate a déclaré que les rapports du Conseil des droits de l'homme ont été publiés sans le moindre souci des conséquences de la crise humanitaire causée par les sanctions américaines qui touchent l'Iran. Les sanctions ont rendu difficile l'accès aux équipements médicaux et aux médicaments, déplore encore Saïd Khatibzadeh. Tout en rejetant le projet de résolution sur la situation des droits de l'homme en Iran, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a souligné que les pays qui violent les droits d'autres nations ne peuvent pas s'opposer en défenseurs des droits de l'homme dans d'autres pays. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a déclaré que ces pays devraient en premier lieu condamner les États-Unis pour leur guerre économique imposées à l'Iran. L'ambassadeur d'Iran auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, IAEA, a affirmé que l'adoption de positions politiques concernant l'accord nucléaire de 2015 était contre-productive. Kazem Gharibabadi a estimé que l'utilisation d'allégations obsolètes contre l'Iran ne justifierait pas l'échec délibéré de l'agence à traiter d'autres problèmes de prolifération tels que le statut nucléaire d'Israël. Le responsable iranien a fait ce commentaire en réaction à une récente interview du directeur général de l'IAEA avec Newsweek. Raphaël Grossi avait appelé à des discussions détaillées et techniques concernant la présence de particules d'uranium dans des endroits non déclarés en Iran. Kazem Gharibabadi a averti que de tels entretiens pourraient réduire les chances de succès des futures initiatives de l'agence. Téhéran et l'IAEA sont parvenus à un accord temporaire pour une durée de 3 mois et décideront par la suite de la poursuite de la coopération. Triste anniversaire de la guerre du Yémen, l'Iran soutient tout plan de paix en faveur de la nation yéménite. Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié mardi une déclaration à l'occasion du 6e anniversaire de l'intervention militaire de la coalition saoudienne contre le Yémen, dénonçant les censures contre les crimes perpétrés par la coalition d'agression menée par Riyad contre les Yéménites. Les affaires étrangères de la République islamique d'Iran fustigent vivement la poursuite d'une guerre criminelle contre le peuple innocent du Yémen. Une intervention militaire sans fin, déclenchée par l'Arabie saoudite à la tête d'une coalition d'agression et qui entre maintenant dans son 7e triste anniversaire. Au cours des 6 dernières années, un blocus total maritime, terrestre, aérien, voire médiatique et des bombardements sans fin ont visé 24 millions de personnes dans le plus pauvre pays du monde. Des dizaines de personnes meurent chaque jour à cause des bombardements, de la famine, de la maladie, de la pénurie de carburant et du manque de médicaments dans les centres de soins. Ce qui est encore plus douloureux, c'est que cette agression barbare et ce blocus lâche n'ont jamais été arrêtés, même en pleine crise sanitaire de la COVID-19. Sans aucun doute, ce qui se passe au Yémen, selon les chiffres annoncés par les autorités internationales et même selon les soutiens politiques armés de cette agression inhumaine, est une catastrophe sans précédent, dont la poursuite judiciaire internationale est l'un des devoirs des instances internationales compétentes et de tous les défenseurs de la liberté et des droits de l'homme. La diplomatie iranienne a plaidé une fois de plus pour l'établissement du cessez-le-feu et la levée du blocus, seule option à ses yeux pour mettre fin à la catastrophe humanitaire et pour faciliter le dialogue entre les belligérants. Sachez d'autre part que les partis et militants politiques yéménites ont organisé un rassemblement dans la capitale Sanaa pour marquer le 6e anniversaire de l'agression saoudienne contre leur pays. Un certain nombre de représentants du parti et d'activistes ont pris la parole lors de l'événement surnommé « 6 ans de résistance ». Les intervenants ont critiqué la campagne militaire en cours de l'Arabie saoudite contre le Yémen et ont exigé la fin de l'invasion. Un activiste a déclaré que des innocents au Yémen étaient tués alors que le monde n'observe que le mutisme. Il a déclaré que les forces yéménites continueraient à protéger la nation et son honneur contre les agresseurs. Un autre orateur a déclaré que l'agression saoudienne équivalait à une guerre contre l'humanité. Le royaume arabe et certains de ses alliés ont lancé une guerre contre le Yémen depuis mars 2015. Une intervention militaire qui a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Les talibans ont rejeté une proposition d'élection présidentielle anticipée que le président afghan Ashraf Ghani devrait dévoiler le mois prochain. Les talibans disent qu'ils ne soutiendront pas la proposition de Ghani, qualifiant les élections de processus scandaleux dans le pays. Le groupe affirme qu'une telle décision devrait être prise lors de discussions entre les deux parties. Ashraf Ghani entend proposer la tenue d'une nouvelle élection présidentielle dans les 6 prochains mois, une hypothèse immédiatement rejetée par les talibans. Ce plan sera présenté lors d'une réunion prévue en Turquie en avril où les États-Unis et les principales puissances régionales espèrent relancer un processus de paix qui piétine, ont indiqué mardi deux hauts responsables gouvernementaux afghans sous couvert d'anonymat. Le président Ghani semble ainsi proposer une alternative à l'option d'un gouvernement de transition incluant les talibans suggérés par Washington et approuvés par la Russie, mais qu'il rejette avec force. Les efforts de Ghani sont considérés comme une contre-offre à la proposition US pour la formation d'un gouvernement intérimaire impliquant les talibans avant que les troupes américaines ne quittent le pays. Conformément à un accord signé en février 2020 à Doha, entre l'administration Trump et les talibans, les forces américaines doivent quitter l'Afghanistan le 1er mai. La rapporteure spéciale des Nations Unies, Agnès Callamard, a affirmé avoir fait l'objet de menaces de mort d'un haut responsable saoudien dans le cas de l'affaire Khashoggi. Les Nations Unies ont appelé mardi à traiter sérieusement, je cite, la menace de mort contre Agnès Callamard, rapporteuse spéciale de l'Organisation sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, proférée par un haut responsable saoudien dans le cadre des enquêtes sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Plus tôt mardi, Callamard s'est confiée au quotidien britannique The Guardian, affirmant avoir fait l'objet de menaces de mort d'un haut responsable saoudien, sans citer son nom, dans le cadre des enquêtes sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Elle a publié un rapport de 100 pages en juin 2019, affirmant qu'il y avait des preuves crédibles que le prince héritier saoudien et d'autres autorités du royaume étaient responsables du meurtre. Khashoggi a été tué et démembré à l'intérieur du consulat saoudien à Istanbul en octobre 2018, un assassinat qui a déclenché une tempête internationale. Risque de famine au Yémen, Soudan du Sud et au Nigeria, prévient l'ONU. Des millions de personnes au Yémen, au Soudan du Sud et dans le nord du Nigeria, sont en proie à des conflits, risquent de connaître la famine dans les prochains mois ou en souffrent déjà, on avertit mardi deux agences des Nations Unies. Les trois régions font partie des 20 points chauds de la faim, identifié par le Programme alimentaire mondial PAM et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, où l'insécurité alimentaire alarmante risque de s'aggraver encore d'ici juillet. Une action humanitaire ciblée urgente et à grande échelle est nécessaire pour prévenir la faim ou la mort dans les trois régions spécifiquement pointées, insiste le rapport conjoint. Enfin, fusillade dans le Colorado où Joe Biden, le président américain, réclame l'interdiction des fusils d'assaut. Le président américain Joe Biden appelle à un contrôle plus strict des armes à feu suite à une série d'incidents de fusillades dans son pays. Biden a déclaré que le contrôle des armes n'est pas et ne devrait pas être une question bipartite. Il a également demandé au Sénat américain d'adopter immédiatement deux projets de loi visant à améliorer la vérification des antécédents des ventes d'armes. Par ailleurs, la Maison-Blanche a déclaré que Biden envisageait un certain nombre de mesures exécutives pour lutter contre la violence armée. Cela vient après que 10 personnes, dont un officier, ont été tuées dans une attaque à Boulder, Colorado. 8 autres personnes ont été tuées la semaine dernière dans une série de fusillades à Atlanta, en Géorgie. L'effusion de sang a renouvelé les appels à un contrôle plus strict des armes à feu, une question historiquement source de division. Les démocrates ont généralement été en faveur de réglementations plus strictes sur les armes à feu, mais les républicains se sont opposés aux restrictions, citant le deuxième amendement de la Constitution américaine. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Le ministre iranien de la Défense exhorte le Royaume-Uni à prendre des mesures concrètes pour payer la dette de l'Iran. Le ministre iranien de la Défense a déclaré mardi que le Royaume-Uni devait prendre des mesures pratiques pour payer sa dette suite à la non-délivrance de plus de 1750 chars de véhicules blindés à l'Iran, commandés par Téhéran en 1979. Le général de brigade Amir Hotami a fait ses remarques en réaction aux récents commentaires du ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, qui a souligné la nécessité de payer la dette de son pays envers le gouvernement iranien. La dette du Royaume-Uni envers l'Iran découle de la non-livraison de 1500 chars Chieftain et de 250 autres véhicules blindés commandés par le roi Pahlavi avant son renversement en 1979 en Iran. Le ministre iranien a déclaré qu'il y avait toujours eu une distance entre les positions prises par les responsables britanniques et leur détermination pratique. Se référant aux décisions de justice et aux obligations contractuelles, le général Hotami a déclaré que les restrictions découlant de sanctions arbitraires ne sont pas la principale raison du non-paiement de la dette britannique. Il a déclaré que la nation iranienne voulait que le gouvernement britannique règle la question par le biais de mécanismes précédemment discutés par les deux parties. En janvier 2019, un tribunal de grande instance de Grande-Bretagne a rejeté une plainte déposée par l'Iran demandant au moins 20 millions de livres d'intérêt pour une dette liée aux accords de défense. Le juge Stephen Phillips de la Haute Cour de Londres a statué que le Royaume-Uni n'avait pas à payer la somme qui, selon l'Iran, s'était accumulée sur 387 millions de livres sterling dus à Téhéran pour l'échec de la livraison de plus de 1500 chars et véhicules blindés sur la base de contrats signés à l'époque. La Grande-Bretagne s'est abstenue à plusieurs reprises de payer la dette qu'elle reconnaît d'avoir à l'Iran, invoquant des sanctions illégales imposées par les États-Unis à Téhéran. Le Premier ministre Boris Johnson a déjà informé les journalistes en février 2018, après un voyage à Téhéran en tant que ministre des Affaires étrangères, que l'argent serait remboursé. Cependant, le paiement n'a jamais eu lieu, provoquant l'ire de l'Iran.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'Israël, justement Israël qui tend la main à l'OTAN pour compenser ses pertes et ses défaites stratégiques et militaires contre le Hezbollah libanais. Justement, Israël fait tout pour bloquer catégoriquement des institutions libanaises et affaiblir la monnaie nationale. Malgré cela, le Liban a su rester debout. Alors, ce qui choque, chers amis, c'est bien la France qui est tombée dans le piège d'Israël et suit le modèle d'Israël et celui des États-Unis dans la région. Nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Vous restez avec nous, je vous prie.
Début février, dans une démonstration de force bien calculée, le Hezbollah et Gaza se sont livrés à une chasse croisée des drones israéliens. Chasse que la résistance libanaise a fini en beauté, en interceptant, puis en détruisant un Hermès 450 tactique israélien. L'affaire a fait beaucoup de bruit en Israël, où les experts y ont vu un coup de buck russe livré au Hezbollah, criant la fin de la supériorité aérienne d'Israël dans le ciel du Liban. La banque de données que remet Kochavi à Macron ne relève donc que d'un coup de bluff qui cache une capitulation aérienne d'Israël. Mais ces derniers jours, on n'a pas eu droit qu'à l'idylle anti-Hezbollah Paris-Tel Aviv en plein Élysée. Dimanche soir, le sioniste Gilad Erdan a aussi jasé devant le Conseil de sécurité, se plaignant avec le même culot que Kochavi qui parlait à Paris de la violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité par le Hezbollah. Encore du Hezbollah qui poursuit son renforcement militaire et qui devrait être neutralisé par une finule dont la neutralité commence à bien faire. Erdogan a donc ainsi formulé un plan B, travaillé pendant les 12 derniers mois de la présidence Trump, mais qui, en dépit des efforts de l'ambassadrice Shea, a là encore échoué. La modification de la mission de la FINUL, en faire un taupe d'Israël, et ce, à l'effet de localiser les stocks d'armes et de missiles du Hezbollah. D'ailleurs, les Britanniques ont déjà commencé le boulot. Eux, qui sont une source bien informée, ont construit 39 tours d'observation et 7 bases, ainsi qu'un centre d'opération militaire le long de la quasi-totalité de la frontière avec la Syrie, ce qui fait plus de 100 km. Là, il y a de tout. Les équipements électroniques et de communication par satellite dernier cri, reliés au centre de commandement et de contrôle de l'armée libanaise que Londres aime et chérit et dont les effectifs sont entraînés et formés régulièrement dans l'espoir de les voir un jour se retourner contre le Hezbollah. Les communications liées aux satellites peuvent être interceptées par les services de sécurité et du renseignement actifs dans la région, notamment ceux d'Israël, des USA, du RU et de la France. L'objectif étant de surveiller, sans le dire évidemment, les mouvements du Hezbollah et ses voies d'approvisionnement militaire le long de la frontière.
Voilà, vous regardez l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour à mon collègue Philippe Hugo.
C'est un plaisir de vous recevoir sur l'antenne, M. Luc Michel. Un grand bonjour, comme vous l'avez dit, à M. Philippe Hugo, reporter de guerre depuis Paris. M. Hugo, bonjour.
Oui, bonjour à toute l'équipe, à vos auditeurs et bien sûr à mon ami Luc Michel.
Voilà, vous semblez d'être amis, les deux invités. J'espère que ça ne va pas vous empêcher de vous contredire dans cette émission qui s'appelle Le Débat. Alors, ma première question va s'adresser à M. Luc Michel depuis Bruxelles. Alors, M. Michel, Israël fait tout pour donc bloquer des institutions libanaises et affaiblir la monnaie nationale, et surtout qu'après avoir perdu sa suprématie aérienne dans la région, Israël tend la main à l'OTAN. Pourquoi, à votre avis?
Il faut comprendre qu'on est entré avec Joe Biden et Kamala Harris dans une nouvelle ère géopolitique. Les États-Unis sont en train de resserrer les liens du bloc américano-occidental autour de trois OTAN, en fait, l'OTAN traditionnelle en Europe occidentale, le projet d'OTAN du Proche-Orient avec Israël, les Saoudiens et les Émiratis, et enfin une OTAN du Pacifique. Vous savez que dans les années 60, il y avait l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est. C'est le resserrement, la reformation de cette alliance dans ce qu'on appelle le Quad, c'est-à-dire les Australiens, les Néo-Zélandais, les Coréens du Sud et les Japonais. Au milieu de tout ça, le deuxième phénomène, c'est la montée en puissance de la Russie de Poutine, qui est maintenant, à marche forcée, redevient une grande puissance mondiale. C'est une Russie moindre géopolitiquement que l'Union soviétique. Vous savez qu'en 1992, la Russie a perdu en fait les 2/5 de son territoire et la moitié de sa population, mais c'est composé par la création de ce qu'on appelle l'axe Moscou-Pékin, et qu'on peut même appeler un axe Moscou-Pékin-Téhéran. Vous savez que dans la première guerre froide, ce qui avait permis la victoire des Américains, c'était que les États-Unis et les Chinois, après la visite de Nixon et de Kissinger à Pékin en 1972, avaient formé un axe contre l'Union soviétique. Maintenant, les Chinois ont compris qu'ils se sont fait rouler dans l'affaire. La récompense de la défaite de l'Union soviétique, ça a été tiré à peine. Et donc aujourd'hui, les Chinois savent qu'ils ont besoin d'une alliance géopolitique solide, ce qu'on appelle une alliance géopolitique dos à dos, s'appuyant sur la Russie. Au milieu de tout ça, évidemment, ça a changé les rapports de force au Proche-Orient. Et je vais donc maintenant répondre à votre question. Les Israéliens eux-mêmes saluent dans Poutine le nouveau tsar du Proche-Orient. La victoire de la Russie dans la guerre de Syrie, la parité stratégique rétablie entre Israël et l'axe de la résistance, tout ça, ça a changé profondément. Les Israéliens, avec les Français et les Américains, ont tenté de profiter de la catastrophe de Beyrouth pour mettre le crapin sur les institutions libanaises, et écarter le Hezbollah. Vous vous rappelez que Macron était venu à deux reprises jouer le proconsul à Beyrouth, un proconsul colonial. Ça n'a pas marché parce que justement, la Russie s'est opposée au plan occidental et a soutenu l'axe de la résistance. Aujourd'hui, on est dans une situation profondément changée sur 4-5 ans d'après. Le Hezbollah est classé par l'Union européenne et par les Américains sur la liste des organisations terroristes. Mais aujourd'hui, le Hezbollah est reçu quasiment comme une puissance étatique diplomatique à Moscou. C'est tout ce qui a changé. Le ton aussi a changé puisque l'administration Biden, qui marche à grands pas sur les pas de Trump, s'est livrée dans une confrontation agressive. Et hier, d'ailleurs, les Russes ont changé de vocabulaire. Jusqu'ici, il y avait l'hypocrisie diplomatique. Lavrov parlait de nos partenaires américains. Hier, pour la première fois, ils ont défini les Américains dans un communiqué comme nos ennemis. C'est fondamental, et c'est fondamental, évidemment, pour les peuples du monde qui refusent l'impérialisme et le néocolonialisme.
Oui, merci, M. Michel. À présent, M. Philippe Hugon, depuis Paris. M. Hugon, j'aimerais connaître votre avis sur cette prise d'opposition de la France qui est au cœur de l'OTAN. On a l'impression qu'après cette visite de hauts responsables israéliens en France, entre autres, Macron est sous les ordres d'Israël et suit exactement le modèle d'Israël et des États-Unis dans la région au Liban, mais aussi à l'égard de la République islamique l'Iran.
Alors, moi je dirais qu'Israël aujourd'hui est dans une situation économique catastrophique. Hein. Je crois qu'elle suit de très près le monde occidental, à savoir les États-Unis et les pays de l'Union européenne, qui sont financièrement dans une position très difficile. Quant à Israël, est dans une situation beaucoup plus catastrophique. Donc aujourd'hui, ça leur pose un certain nombre de problèmes dans l'achat d'armement et de développement de leur propre armement. Donc je pense qu'ils ont de plus en plus de mal à faire face au Hezbollah et à la résistance palestinienne. Donc ils s'adressent aujourd'hui aux gens qui peuvent leur apporter de l'aide. Et malheureusement, que ce soit les États-Unis ou l'Union européenne, on continue de soutenir Israël dans sa politique d'ingérence des pays au Moyen-Orient. Donc je pense que c'est vraiment un très gros problème et de très mauvais choix stratégiques faits par la France et l'Union européenne de vouloir à tout prix soutenir Israël. Il faut savoir quand même que depuis un peu plus de 50 ans aujourd'hui, Israël a eu le temps de trouver des compromis pour trouver une solution de paix avec les Palestiniens, une solution de paix avec ces pays environnants. Ce qui, apparemment, n'est pas le cas d'Israël, puisqu'Israël continue à maintenir une très, très grosse pression sur les pays régionaux, les pays qui les entourent, et les pays qui soutiennent Israël. Alors non seulement c'est un très très mauvais choix stratégique, mais si Israël continue dans cette voie, et apparemment parce qu'Israël n'existera plus dans 20 ans comme il existe aujourd'hui. Pour une raison toute simple, c'est qu'Israël aujourd'hui avait toujours bénéficié depuis une cinquantaine d'années de l'appui des États-Unis et de l'Union européenne. Mais avec ces grandes difficultés financières, ça va devenir de plus en plus difficile pour l'Occident de soutenir Israël, d'autant plus que l'opinion publique est en train de changer. C'est-à-dire que toutes ces générations qui soutenaient Israël face à la Palestine et aux pays environnants Israël, eh bien cette nouvelle génération ne veut plus ces assassinats permanents que pratique Israël, tous ces bombardements d'ingérence que pratique Israël, notamment au Liban, eh bien les gens ne sont plus prêts à l'accepter. Et la nouvelle génération des jeunes aujourd'hui, qui ont 20 ans, 30 ans, n'accepteront plus cette ingérence occidentale dans la vie du Proche-Orient, du Liban, de la Syrie. Donc ça, c'est une situation qui va devenir de plus en plus difficile pour Israël de maintenir les positions qu'ils ont. Et s'ils continuent de maintenir cette position, dans 20 ans, Israël n'existera plus.
Monsieur Michel, votre réaction, je vous prie. Est-ce que l'OTAN va continuer à accepter aveuglément les ordres d'Israël?
Il faut comprendre les rapports de force à l'intérieur du bloc occidental lui-même. Il y a un axe entre la France et les Émirats. Ce sont deux puissances maritimes. Vous savez que l'impérialisme français se redéfinit depuis environ 2 ans comme une grande puissance maritime mondiale. C'est le fameux livre de l'amiral Koldewey, l'ancien patron du Charles de Gaulle, qui s'appelle Amiral, qui est un livre manifeste. Et les Émiratis, à l'occasion de la guerre du Yémen, ils sont émergés comme une grande puissance maritime qui se déploie depuis le golfe de Sirte en Libye jusqu'au détroit d'Oman. Les Français et les Émiratis ont fait un ensemble d'accords, des accords militaires, des fournitures d'armement, des accords économiques, des accords de soft power dans le domaine culturel, mais surtout, ils ont unifié leurs forces et leurs flottes pour tenter d'exercer pour le compte des Occidentaux, avec l'aide des Américains, un magistère sur l'océan Indien, le golfe Persique et la mer Rouge. Ils appuient directement aujourd'hui, c'est la principale force, ils appuient la 5e flotte américaine qui est au Bahreïn. Et tout cela, évidemment, fait que Paris suit aveuglément la politique israélienne. Pourquoi? Parce que les principaux alliés des Émiratis, eux, sont devenus le principal allié d'Israël. Il y avait déjà également l'influence des lobbies pro-israéliens. Vous savez qu'il y a 2 États au monde qui ont des lobbies pro-israéliens puissants, c'est l'AIPAC aux États-Unis et c'est le CRIF en France. C'est réellement sur la vie politique américaine et française, il y a l'influence de ces deux lobbies pro-israéliens. Et il faut quand même rappeler que ce qui caractérise Israël et la politique israélienne, c'est ce qu'on appelle sa likoudisation. C'est-à-dire que dans les débuts d'Israël, c'était le socialisme qui était dominant. Et il y avait un courant marginal du sionisme qui existait dans les années 30, qu'on appelait le sionisme révisionniste. C'est en fait le fascisme sioniste d'extrême droite, avec le fameux Jabotinsky, l'homme qui voulait le grand Israël du Nil à l'Euphrate. L'héritier de Jabotinsky, c'est le Likoud de Netanyahou. Et aujourd'hui, la totalité de la politique israélienne, elle est likoudisée, même celle de la gauche. Et évidemment, le lobby pro-israélien aux États-Unis ou le CRIF en France est entièrement, il suffit de voir leur position, et sur des positions des likoudiques. C'est tout cela qui fait cette suggestion française. On est bien loin des années 60 de ce qu'on appelait la grande politique arabe du général de Gaulle. Vous savez que le général de Gaulle avait tendu la main à un certain nombre d'États arabes, et Georges Pompidou, par exemple, avait soutenu Kadhafi dans les premières années de la révolution libyenne. Il reste rien de tout ça aujourd'hui, rien de tout ça. La France, elle est la domestique de la politique israélienne, de la politique et de l'agenda américain en Proche-Orient. Mais pire encore, puisque nous parlons du Liban, la France, jusque-là, elle se présentait depuis l'époque des rois de France comme le protecteur des populations chrétiennes du Proche-Orient. Aujourd'hui, on vomit la France au Liban, on vomit la France en Syrie, moi je m'en suis rendu compte directement, alors que ces populations étaient encore francophiles il y a une dizaine d'années, et surtout, depuis Jacques Chirac, c'est le domestique libanais des Saoudiens, la famille Hariri, qui est étroitement liée à l'establishment politique français. Tout cela vous explique ce phénomène que vous décrivez, c'est-à-dire cet alignement complet de Macron sur Tel Aviv.
Tout à fait. Monsieur Hugon, alors la France bat tous les records, et surtout celui de la démagogie. Alors, nous parlons également de la prise de position nouvellement de la France vis-à-vis de l'Iran, qui est très choquant, une politique anti-iranienne, très certainement dictée par Israël. Est-ce que la France va continuer d'accepter aveuglément les exigences d'Israël dans la région?
Oui,
alors la France n'a plus de politique étrangère depuis la fin des années de Gaulle. Hein. De Gaulle représentait encore une espèce de sauvegarde de cette politique étrangère franco-française. Aujourd'hui, on est directement sous le joug des dictats israéliens, sionistes, américains. Donc aujourd'hui, la France, sur un plan diplomatique international, ne représente plus rien du tout. On peut le voir, moi je me suis rendu de nombreuses fois en Syrie, de nombreuses fois en Iran et au Liban également. On s'aperçoit que la France, qui représentait une certaine exception au niveau diplomatique et une certaine vue de ce que devait être le Proche-Orient et le Moyen-Orient, et aujourd'hui c'est fini. Depuis très longtemps, depuis 40 ans aujourd'hui, on n'a plus de politique vraiment indépendante, on a une politique de suivisme. Et ceci va nous amener à être détestés du monde comme le sont les États-Unis aujourd'hui. Et ça, on va récolter malheureusement les fruits de ce que nous avons semé. Donc c'est un véritable problème pour l'Union européenne et pour la France plus spécifiquement. Luc Michel a tout à fait raison de rappeler que tout ce qu'on vit actuellement, que toutes les situations que nous vivons aujourd'hui ne sont le résultat que de la politique menée par la France. Et la France, comme je vous dis, a cette politique de suivisme. Donc on n'a plus du tout, je dirais, d'indépendance politique. Et c'est une très très grave erreur qui est faite sur un plan international. Quant à suivre maintenant les positions vis-à-vis de l'Iran, je ne vois vraiment pas quel danger peut représenter l'Iran aujourd'hui. Au contraire, on doit considérer l'Iran comme un véritable allié, aussi bien économique, financier, peut-être même militaire également. On aurait tout à gagner à ce qu'il y ait des partenariats passés entre la France et l'Iran. Et aujourd'hui, il n'en est rien. On continue d'avoir cette politique de suivisme états-unien, de suivisme sioniste. Et tout ceci nous amènera à une catastrophe dans les années qui viennent.
Monsieur Luc Michel, la France n'a plus de politique étrangère indépendante, comme a dit Monsieur Hugon.
Elle n'en a plus du tout. Et c'est un phénomène qui s'est amorcé dès la fin des années de Gaulle et Pompidou. Il faut quand même constater quelque chose en plus, c'est que la France entraîne d'autres pays dans cette dérive. Vous savez que dans la nouvelle flottille française, Émiratie américaine qui est actuellement en mer Rouge, il y a une corvette belge d'ailleurs qui s'appelle la Léopold Ier. La Belgique qui fait un bras de fer diplomatique actuellement et judiciaire contre l'Iran. Ça, c'est la France évidemment qui inspire ces pays. La France évidemment, il faut dire un mot simplement. Il y avait un grand géopoliticien européen, c'était le général autrichien Jordis von Lausen, c'était un disciple du géopoliticien belge Antirien. En gros, ce sont des partisans de l'Eurasie, de Vladivostok jusqu'à Lisbonne. Lorsqu'il étudiait les guerres du Golfe et la guerre d'Afghanistan, von Lausen disait que la politique des dirigeants atlantistes de l'Union européenne, c'était une trahison des intérêts fondamentaux des peuples européens. Je partage cette vision. En étant les domestiques, les porteurs de valises des Américains, pas seulement d'ailleurs au Proche-Orient, mais par exemple dans toute l'Afrique, ou en Europe centrale encore, évidemment les dirigeants européens français en tête, ils nuisent aux propres intérêts de leur peuple, notamment aux intérêts économiques. Vous savez que l'Europe, ce qu'on appelle l'Europe, c'est-à-dire la petite Europe de Bruxelles qui est en crise économique, elle a un partenaire économique naturel. Il faudrait fusionner les deux Europes, c'est-à-dire l'espace économique eurasiatique de Moscou et la petite Europe de Bruxelles. C'est la complémentarité économique, la complémentarité industrielle, la complémentarité des marchés. Mais surtout, la Russie apporterait dans la corbeille du matériel son territoire et ses matières premières. Il y a de tout dans cet État-continent qu'est la Russie. Il y a du pétrole, du gaz, du manganèse, de l'uranium, des terrains. Et au lieu de cela, on applique une politique stupide de sanctions. Vous savez que les sanctions qui frappent l'économie russe, elles frappent tout autant les économies belges ou françaises, par exemple, ou allemandes, et les Européens, évidemment, participent Absolument. À un véritable suicide de la puissance européenne.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Philippe Hugon, reporter de guerre depuis Paris, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Guerre des monnaies à l'ère numérique. De la guerre des monnaies livrée entre les États, se profile une autre guerre des monnaies, celle qui oppose monnaie publique et monnaie privée et dont les enjeux touchent au pouvoir et à la souveraineté. L'histoire des faits monétaires montre que la monnaie a toujours fait l'objet d'un conflit entre la sphère privée et la sphère publique, entre marché et système politique sur la question de son appropriation et de son pouvoir d'émission. La numérisation et le progrès technologique entraînent des mutations dans tous les secteurs de la société, accentuant le processus de la digitalisation, accentué elle-même par une crise sanitaire, véritable catalyseur digital. La crypto-monnaie prend ses racines dans une idéologie libertarienne. Lors de sa création au lendemain de la crise financière, le Bitcoin entendait fonder un nouvel ordre monétaire affranchi de l'État et des banques. Témoin d'une économie de plus en plus numérique et changeante ainsi que de l'essor de ces monnaies privées, les banques centrales des États du monde s'engagent sur les potentiels des monnaies numériques, cependant publiques. Afin de répondre aux menaces de la montée en puissance des devises privées digitales, de nombreux gouvernements redoublent d'efforts dans la course effrénée à une monnaie numérique centralisée et souveraine. La monnaie, levier ultime des Big Tech. La crypto-monnaie, deuxième génération, réinventée par les Big Tech, est en rupture avec les logiques des cyberpunks des années 80. Le milieu des cryptographes anarchistes américains visait initialement la réappropriation de la monnaie comme bien commun et la volonté d'anéantissement des États considérés comme véritables freins à la liberté individuelle. L'idée du Bitcoin et des partisans du Bitcoin et des premières crypto-monnaies est de créer un système de paiement totalement horizontal et de mettre fin à une gestion institutionnelle de la monnaie par les institutions parce qu'on ne fait plus confiance aux institutions. Il s'agit de rendre la monnaie au marché via une organisation complètement décentralisée et responsable grâce à la technologie de blockchain. Les objectifs du projet de Facebook, ayant suscité l'émoi de la communauté internationale, clairement définie et inscrite dans son livre blanc, sont objectivement de favoriser le développement d'une devise et d'une infrastructure financière mondiale simple au service de milliards de personnes et de développer à terme des services financiers innovants et responsables. Les arguments marketing présentés par Mark Zuckerberg séduisent notamment par cette perspective d'une inclusion financière d'une grande partie de la population mondiale qui n'a aujourd'hui pas accès à un compte bancaire et ni aux moyens de paiement. Les réalités liées au fonctionnement des GAFAM, GAFAM est l'acronyme des géants du web, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui sont les cinq grandes firmes américaines, et l'idéologie qui les encadre conduisent à s'interroger sur ces oligopoles extrêmement puissants, si bien qu'Internet est devenu aujourd'hui un champ de compétition acharnée entre entreprises multinationales, institutions politiques et groupes sociaux qui se battent pour la distribution du pouvoir. La monnaie pour les GAFAM est le levier ultime d'un capitalisme fondé sur les business de la collecte de données et d'échange de biens informationnels. La monnaie serait ainsi un moyen d'extraire encore plus de données, des données plus fines sur les personnes en accédant aux transactions et à l'historique de ces transactions. La question de la privatisation de la monnaie combinée à la puissance des oligopoles conduit à s'interroger sur les questions de souveraineté politique et d'enjeux en termes de régulation. L'idée de priver totalement un gouvernement de son monopole ancestral sur la monnaie demeure inquiétante pour la plupart des gens pour avoir quelques chances d'être mise en œuvre dans un futur proche. Mais je n'ai maintenant aucun doute que le secteur privé, s'il n'en avait pas été empêché par l'État, aurait depuis fort longtemps fourni au public un choix de monnaies diverses. Les monnaies qui auraient prévalu grâce au processus de concurrence auraient fondamentalement eu un pouvoir d'achat stable et auraient empêché tant la stimulation excessive de l'investissement que les récessions qui leur sont consécutives. Le projet vise donc à imposer aux institutions des missions monétaires, une discipline amplement nécessaire en rendant impossible pour elles la mise en circulation sur une longue période d'une monnaie significativement moins digne de confiance et moins utilisable que les autres. Dès que le grand public se sera familiarisé avec les possibilités offertes, tous les errements par lesquels une monnaie de moindre qualité peut être offerte seront immédiatement sanctionnés par la substitution rapide de la monnaie en question par d'autres. Dit Friedrich Hayek. Comment garantir la stabilité monétaire ? En 1976, Hayek défend le principe de l'émission de monnaie privée concurrente comme étant le futur de la civilisation, l'avenir de la société libre, le marché et les vertus de la concurrence, se chargeant de produire ainsi un écrémage pour ne conserver que celles qui répondent le mieux aux attentes et aux besoins. L'économiste Bernard Lieter propose un modèle différent à cette question, un modèle fondé sur la polyculture monétaire. Chaque monnaie a un usage spécifique et crée les conditions d'un équilibre plus sain des systèmes monétaires. La réflexion de Bernard Lieter s'inscrit sur la nécessité d'une concurrence monétaire confrontée au danger de la monoculture monétaire et la création d'un écosystème avec des usages différents, des vélocités différentes et par conséquent moins sensibles aux crises. La concurrence monétaire, y compris au sein des crypto-monnaies, produirait ainsi les conditions d'apparition d'un nouvel écosystème, une coexistence monétaire selon les usages, induisant une complémentarité entre les monnaies publiques et les monnaies privées. Une complémentarité qui ne remettrait pas en cause les fondements de la monnaie qui reste intacte, à savoir la confiance. La monnaie n'est acceptée que si et seulement si elle bénéficie d'une solide confiance et conserve sa valeur. Cette notion prend tout son sens à l'ère numérique et ses fondements resteront immuables, quelle que soit sa forme à l'avenir. Le Bitcoin a ainsi pris ses racines dans la défiance vis-à-vis du système bancaire et financier qui a engrangé une crise grave en 2008. Il s'agit désormais de fonder la confiance sur la monnaie, non plus sur les institutions, mais sur une technologie, des algorithmes et l'infaillibilité de la cryptographie. Faire confiance à la robustesse des mathématiques. L'objectif du protocole Bitcoin est d'avoir un processus d'information qui soit transparent, décentralisé, infalsifiable, indéchiffrable et inviolable grâce aux propriétés de la cryptographie. 10 ans plus tard, ces devises de protestation sont devenues pour beaucoup des instruments de spéculation. L'engouement pour ce type d'actifs trouve sa source dans des perspectives de rentabilité qui se sont amoindries en raison du contexte de taux d'intérêt historiquement très bas. Là où le Bitcoin a été conçu comme un moyen de paiement, il en devient un instrument de spéculation.